réveiller et commencer le culte effectivement en chantant « Ô Jésus, mon merveilleux amour, ce merveilleux amour qu'il a pour nous. » Eh bien, qu'on puisse se laisser influencer par cet amour qui est tout près de nous. Et c'est vrai que ben, on a aussi l'amour les uns des autres. Là, il y a Léa qui est à côté de moi, là, hein, une de mes petites filles. Et puis Camille, c'est super. Oui, on s'aime et on s'influence. Et je me suis posé la question ces derniers temps en me disant, mais finalement, il y a beaucoup d'influence dans notre monde. Il y a beaucoup d'influenceurs. Est-ce que c'est nouveau? Hein, on parle de youtubeurs, youtubeuses, et on parle d'abonnés. Hein, et dans ces milliers d'abonnés, 500 millions d'abonnés, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. Et on nous parle souvent de notre bien-être, hein, comment bien vivre. Mais pas seulement. Hein. Il y a des sujets très différents qui sont traités sur ces chaînes. On essaye d'avoir beaucoup d'humour, parfois de la dérision. On croque la vie, c'est fait avec enthousiasme, c'est communicatif. On essaye de rassembler comme ça une communauté. Et puis on travaille en faveur de marques, souvent. Hein. Et puis on traite, il y a des sujets, la nourriture, les déplacements, le style de vie, la mode, le fitness. La politique, parfois, au fond, tout ce qui appartient à notre vie de tous les jours, ou presque de tous les jours, à notre vie d'homme et de femme. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que la Bible nous en parle? Y a-t-il des exemples qu'on pourrait citer? La Bible donne-t-elle des exemples de bonnes influences ou d'influences négatives, mauvaises? Quelles sont nos responsabilités face à ces influences? Et puis, on peut se poser aussi la question, quelle est notre influence dans ce monde dans lequel nous vivons? Parce qu'on en a. On en a. Alors, je vais vous prendre, par exemple, un exemple biblique où il y a une influence qui n'a pas été favorable. Et pourtant, c'est quelque chose de très ancien. C'est très, très ancien. Donc, le fait d'influencer ce qui nous entoure ou d'être influencé, c'est très, très vieux. Genèse 3. Donc, on est au tout début de la Bible et la Bible nous parle déjà d'influence. Et là, en l'occurrence, d'influence plutôt négative, hein, même très négative. Alors, je lis simplement ces versets. Genèse 3, 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. » Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit. Et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, Pourquoi tu fais cela ? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Alors là, il s'agit vraiment d'un exemple négatif. On a la ruse, on a la mise en doute de la parole de Dieu. Et puis, dans cette mise en doute, on se dit, ah, en fait, on me cache quelque chose. Dieu sait quelque chose que je ne sais pas, alors ça c'est naturel, mais en même temps, il ne veut pas me donner quelque chose qui pourrait m'élever, me donner un pouvoir supérieur. Et puis là, alors tout de suite, dès que ah, je pourrais avoir quelque chose de plus, il y a une lampe qui s'allume, celle de la convoitise, de l'orgueil. Et puis on voit tout de suite, ah, c'est quelque chose d'agréable à regarder. C'est quelque chose, ça va m'ouvrir les yeux sur un monde nouveau. Bah, c'est ce qu'on a souvent dans la société, hein. Un positif ou un négatif. Mais, ah, on va découvrir un monde nouveau. Là, vous aurez plus de rides. Ah, puis là, alors, ça va vous faire un bien, jeune homme, mais comme pas possible, hein. Et puis, en fait, on n'a pas besoin de ça. Heureusement, Dieu est là. Et Dieu ne laisse pas l'homme dans cette situation. Et ça, c'est merveilleux parce que Dieu vient à la rencontre de l'homme. Et dès le début, il lui donne cette promesse. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ce que Dieu dit au serpent. Tu seras écrasé. Tu mourras. Tu ne pourras plus du tout prendre autorité. C'est à la croix. Mais c'est vrai que souvent, les demi-vérités ont beaucoup de poids. Parce que là, le serpent n'a pas menti sur tout. Il a usé de ruse. Il y a des demi-vérités chaque fois. Et c'est ce qui fait que certaines fois, on y croit. Et en fait, c'est à partir de des versets dans les chroniques que j'ai voulu partager ça. Parce que dans les chroniques, il y a l'histoire d'une reine et de deux rois. La reine Athalie, qui avait comme fils Akasia, et cet Akasia ne va pas régner longtemps. Puis Athalie, sa mère, va régner à sa place, parce qu'Akasia mourra, et puis elle va prendre le pouvoir et pas du tout le laisser à ses petits-enfants. Alors j'aimerais simplement lire d'abord 1 Chronique 22, les versets 1 à 4 et 10 à 12. 1 à 4. Les habitants de Jérusalem, donc ça se passe dans le royaume de Juda, les habitants de Jérusalem firent régner à la place d'Akasia le plus jeune fils d'Athalie, car la troupe qui avait fait irruption avec les Arabes dans le camp avait tué tous ses aînés. C'est ainsi qu'Azaria, fils de Joram, roi de Juda, devint roi. Akasia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, c'était la petite fille d'Omri. Il marcha lui aussi sur les voies de la famille d'Akab, car sa mère le poussait au mal par ses conseils. Il fit donc ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la famille d'Akab, car il trouva, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Et puis 10 à 12. Quand Athalie, la mère d'Akasia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale de la communauté de Juda. Cependant, Jehabeth, fille du roi, prit Joas, fils d'Akasia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. Jehabeth, fille du roi Joram, femme du prêtre Jehoiada et sœur d'Akasia, le cacha ainsi à Athalie, et celle-ci ne le fit pas mourir. Il resta 6 ans caché avec eux, dans la maison de Dieu, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Et là, on voit dans les premiers versets que je vous ai lus, un roi sous influence de sa mère Athalie. Sa mère le poussait au mal par ses conseils. Mais sa responsabilité personnelle de roi reste entière quant au choix de ses conseillers et quant à la pertinence des conseils qu'on lui donne. Et là, en fait, c'est la dérive complète pour ce roi, qui se laisse vraiment influencer par sa mère, qui marche, en fait, dans les voies de Jézabel, qui était une des parentes d'Athalie. Donc on voit là qu'elle va toujours plus loin. Et à la mort du roi, Athalie, qui a envie d'avoir le pouvoir, parce que finalement elle ne l'avait pas totalement, puisque c'était son fils qui régnait. Là, elle va profiter du fait que son fils meurt pour devenir reine. Et elle va massacrer tous ses petits-enfants, sauf un. Sauf un. Si elle les avait tous massacrés, ben, il n'y aurait pas eu de descendance de David. Et les promesses de Dieu n'auraient jamais pu s'accomplir, puisque le Messie doit être un descendant de David. Mais Dieu veille, Dieu veille. Mais cette reine Athalie va continuer, en fait, son travail de sape. Ça va être l'adoration de faux dieux, de Baal. Hein? Ça va être l'idolâtrie, les meurtres, les complots, la violence. Et comme on l'a lu au début, à la Genèse, la violence est apparue très très vite, dans le couple, envers d'autres. Et là, ça continue. Et c'est très très fort, cette violence et ces meurtres. Elle introduit un régime totalitaire. Et c'est le propre des régimes totalitaires. Soit on veut se faire adorer comme leader, ben c'est ce qu'a fait Athalie au parti. Et puis en parti, ben, il y a une religion entre guillemets d'État, un besoin de contrôler. On va faire des grandes cérémonies, on occupe le peuple, mais il n'y a pas de conscience personnelle. Mais Dieu veille. La Bible, est-ce qu'elle nous donne quand même, parce que là je vous ai cité deux exemples négatifs, est-ce qu'elle nous donne des exemples d'influence positive? Ben, il y en a déjà une. Hein. Il y en a déjà une, c'est une femme courageuse, Jochébeth, qui se dit, non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais sauver un de mes neveux. Et elle va sauver Joas. Elle va avoir une influence déterminante sur Joas. Et puis là aussi, on voit que, moi je trouve que c'est un couple merveilleux, il n'est pas dit grand-chose de Jéhojada et de Jochébeth. Mais on voit qu'il y a une complicité malgré tout entre les deux. Parce que quand Jochébeth va installer Joas avec sa nourrice dans une des chambres du temple, il n'est pas parlé que Jéhojada était opposé. Donc on voit qu'il y a une certaine complicité. Et puis il y a trois personnes au début qui sont au courant. Et c'est là où on voit la main de Dieu. Trois personnes au courant, et pendant 6 ans, il y aura un confinement. Ce petit, il va être pendant 6 ans, ben, un peu caché, mis à l'écart. Et Athalie ne va pas le connaître. Il reste 6 ans, 6 ans où les gens doivent se taire. Mais 6 ans aussi où il va bénéficier, au fond, de l'accompagnement, de l'influence de ses parents d'adoption, c'est-à-dire du sacrificateur et de la femme du sacrificateur. Et au bout de ces 6 ans, lorsque Joas a 7 ans, Jéhojada, le prêtre, s'arme de courage et il dit, il va prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre Joas sur le trône. Et il va dire aux différentes personnes, bah, venez, et on va mettre maintenant Joas sur le trône. Et toute l'assemblée d'Israël, des gens de Juda, fit alliance avec le roi, Joas, dans la maison de Dieu. Jéhojada leur dit, voici le fils du roi, c'est à lui de régner, conformément à ce que l'Éternel a déclaré à propos des descendants de David. Les conséquences, c'est dans le chapitre 23, ça va être la mise à mort d'Athalie. On va l'écarter, mais ça ne va pas être un spectacle, on va simplement rendre justice. On va l'écarter, elle sera mise à mort, et puis il y aura un vrai retour à Dieu. Jéhojada, il est dit, Jéhojada conclut entre lui, tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de Dieu. Tout le peuple se rua vers le temple de Baal, ils le démolirent, brisèrent ses autels et ses statues, et ils tuèrent Matan, le prêtre de Baal, devant les autels. Jéhojada confia la responsabilité de la maison de l'Éternel aux prêtres lévites, comme ça devait être le cas. C'était eux que David avait réparti en classe et chargé de la maison de l'Éternel pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel conformément à ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel de Moïse. Cela se passa au milieu des réjouissances et des chants composés par David. Il y a un retour vraiment à la parole. Et là, on voit l'influence de Jéhojada. Il prend les choses en main avec courage. Et ce Jéhojada, ce prêtre, a une vraie influence sur le roi Joas. Parce qu'il est dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du prêtre Jéhojada. Joas va restaurer d'ailleurs le temple. Et il va donner l'ordre de restaurer le temple. Et les sacrificateurs et les lévites ne vont pas tellement se bouger au début. Et Joas va dire, non, il faut que vous vous bougiez. Il rassembla les prêtres et les lévites et leur dit, parcourez les villes de Juda, récoltez de tout Israël chaque année de l'argent pour réparer la maison de votre Dieu. Menez cette affaire avec empressement. Ça, c'est le roi qui le dit. Mais les lévites ne montrèrent aucun empressement. Le roi appela le grand prêtre Jéhojada, lui dit, pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les lévites apportent de Juda de Jérusalem la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à l'Assemblée d'Israël pour la tente du témoignage. En effet, l'impie Athalie et ses fils ont dévasté la maison de Dieu, ils ont même employé pour les Baals tous les objets consacrés à la maison de l'Éternel. Et là, il va secouer les personnes, les responsables, les lévites, les sacrificateurs. Et les choses vont s'améliorer. Il y aura un véritable réveil. Il est dit dans la parole, ceux qui étaient chargés des travaux se mirent à l'œuvre et la restauration progressa entre leurs mains. Ils remirent la maison de Dieu en état et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent terminé, ils apportèrent le reste de l'argent au roi et à Jéhojada. Et l'or et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et des autres ustensiles en or et en argent. Pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit constamment des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Il est dit, pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit constamment des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Il n'est pas dit pendant toute la vie de Joas. Ah, il y a peut-être quelque chose, hein. Cette remarque nous fait bien présager que Joas, sans les conseils précieux de Jéhojada, va peut-être subir d'autres influences et ne va pas aller dans ce même chemin. Et très vite, d'ailleurs, on le lit dans la parole, après la mort du sacrificateur Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Celui-ci les écouta alors, ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, pour servir les Astartés et les idoles. Ça va pas long, hein? Ça va pas long que, hop, ça bascule. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'était de la flatterie? Parce que là, on voit que les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. De l'orgueil de la part de Joas? Mais Joas écoute ses mauvais conseils. Il abandonne l'Éternel et sert les idoles. Ce dérapage va très vite, très loin. Et souvent c'est ça. C'est que le péché, on commence petit à petit, on abandonne, et ça va toujours plus loin. Et j'aimerais simplement rappeler peut-être le psaume 1. Combien on se laisse facilement emporter. On ouvre une porte, et puis il y en a une autre qui s'ouvre, presque automatiquement. Il est dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » C'est intéressant parce que on prend simplement les noms. Le conseil des méchants. Le conseil. D'abord, il y a des conseils. Alors, on écoute les conseils des méchants. Puis après, la voix des pécheurs. Le conseil des méchants nous entraîne vers la voix des pécheurs. Et puis après, on est en compagnie. On n'est plus seulement dans la voie. On est en compagnie des moqueurs et des pécheurs. Puis maintenant, si on prend les verbes, c'est aussi intéressant les verbes. Parce que les verbes qui ne marchent pas, on commence à marcher dans le conseil des méchants. Puis après, on ne fait pas que marcher. Tout d'un coup, on s'arrête. On s'arrête sur la voie des pécheurs. Puis on ne fait pas que s'arrêter. On s'asseye. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a une progression vers le mal. Et là, en ce qui concerne Joas, il y aura une progression. Parce que tout d'un coup, il va écouter le conseil des méchants. Il va aller vers l'idolâtrie, vers l'abandon de l'Éternel. Ça va l'amener sur la voie des pécheurs. Et ça va être grave de conséquences. Mais Dieu intervient, Dieu n'est pas silencieux. Dieu n'est pas silencieux vis-à-vis de Joas, comme il ne l'est pas vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et c'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu, de sa grâce, il va envoyer quelqu'un auprès de Joas. Je lis dans la parole de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils du prêtre Jéhojada, il se présenta devant le peuple et lui annonça « Voici ce que dit Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne rencontrerez aucun succès, car vous avez abandonné l'Éternel, de sorte qu'il vous abandonnera. » Mais ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent sur l'ordre du roi. Dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhojada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui, et il assassina son fils. Quand on écoute les mauvais conseils, on va toujours plus loin. Et là, on peut se dire, mais est-ce qu'une bonne ou une mauvaise influence suffit? Quand on lit ces textes, relisez-les ou prenez-les sur YouTube aussi, on les a, si vous les écoutez, 2 Chroniques 22, 23 et 24, c'est des textes qui sont parlants. Il y a une nécessité d'avoir une authentique relation avec Dieu. Joas n'avait pas cette relation authentique avec Dieu. Il était influencé. Alors c'était bien, oui, c'était déjà positif, ça allait déjà du bon côté. Mais ça suffit pas, s'il n'y a pas une décision personnelle, s'il n'y a pas une relation personnelle avec Dieu. Écoutez, reconnaître la voix du bon berger. Je lis simplement dans Jean 10, « Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. » Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. et il les fait sortir de leur clos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Jean 10, les versets 3 à 5. Sa voix leur est familière. C'est ça finalement qui est déterminant. On reconnaît la voix de Dieu. Sa voix nous est familière. Mais pour que cette voix soit familière, ben, il faut qu'il y ait cette proximité. Il ne faut pas l'écouter qu'une fois. Parce que si on écoute quelqu'un qu'une fois, eh ben, vous ne pouvez pas dire qui c'est. Et puis il y a quelque chose de merveilleux parce que... Il y a plusieurs petits enfants ici dans l'assemblée, hein, qui sont petits. Il y en a qui sont à venir encore. Mais quand la maman ou le papa parle au petit, vous avez vu ses yeux qui... Puis des fois, ça même, pas toujours, ça les calme pas toujours. Ils sont un peu comme... Mais nous, on est la même chose. Hein. On est un peu comme ces brebis. Certaines fois, on bêle pour rien du tout. Hein, mais parce que, bon, ben voilà. Hein. Au lieu d'écouter la voix du bon berger ou la... Ben là, au lieu d'écouter la voix qui va calmer l'enfant, hein, ben des fois, il l'entend, on voit ses yeux, hein, mais il ne se calme pas tout à fait. Ben, moi, je suis aussi un peu comme ça, des fois, vis-à-vis de mon Dieu. C'est que je reconnais sa voix, mais des fois, quand je vis des circonstances particulières, je continue à bêler. Ben, mais oui, mais on peut lui faire confiance. Mais que cette voix nous soit vraiment familière. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Il y a une connaissance intime de Dieu. Et c'est certainement ce qui a manqué à Joas. C'est d'avoir cette connaissance intime. Il a eu pas mal d'enseignements, même beaucoup. Mais quelle était sa connaissance intime de Dieu ? Notre influence, en tant que chrétien, ben, c'est clair qu'on l'a. Hein, si on marche dans cette intimité avec Dieu, c'est vrai qu'on l'a. Hein. Il a dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, en donnant la mort, aux autres une odeur de vie, en donnant la vie. Pour cette mission, qui donc est qualifiée? Donc on voit qu'on a une influence. Mais si... les personnes que nous côtoyons n'ont pas vraiment une intimité avec Dieu, ben on aura beau les encourager, cette influence sera comme une coquille vide, c'est-à-dire que ça, à long terme, ben, s'il n'y a pas une décision, une vraie décision, ça ne pourra pas être le cas. Et puis je me suis aussi posé la question à me dire, ben, c'est vrai qu'on n'est pas toujours compétent pour être vraiment des serviteurs de Dieu exemplaires. Mais Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Et là, j'ai lu une petite anecdote qui m'a fait sourire et qui m'a fait du bien. Parce que Dieu ne nous demande pas d'avoir toutes les qualités. Je vous la lis. On raconte qu'un Écossais vint rencontrer Hudson Taylor pour lui demander de l'accepter de sa mission en Chine. Or, cet homme n'avait qu'une jambe. Le célèbre missionnaire, un peu interloqué, lui demanda « Monsieur, pourquoi voulez-vous aller jusqu'en Chine, alors que vous n'avez qu'une jambe ?» L'Écossais répliqua « Parce que je ne vois aucun homme avec deux jambes prêt à partir. » Il fut accepté sur le champ par Hudson Taylor. Il n'avait peut-être pas deux jambes, cette personne. Elle n'avait qu'une jambe, mais elle avait un cœur pour Dieu. Bien que Dieu me fasse cette grâce d'avoir un cœur pour lui, un cœur entier pour lui, un cœur dévoué pour lui. Il y a un exemple aussi dans la parole de Dieu où il y a quelqu'un qui a eu un cœur vraiment dévoué pour Dieu. C'est Moïse. Et ça, je l'ai lu aussi récemment C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, mais il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Moïse se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Déterminant une authentique relation avec Dieu. Et je vais finir par deux témoignages. Un premier témoignage que vous connaissez, mais qu'il est peut-être important de rappeler, parce que c'est une jeune fille de 19 ans. 19 ans, ça ne fait pas vieux. C'est Marie Durand, jeune huguenote ardéchoise, qui a passé 38 ans comme prisonnière dans la tour de Constance. En juillet 1730, la jeune fille n'a que 19 ans quand elle franchit les portes de la tour de Constance à Aigues-Mortes. Elle y est restée 38 ans, fidèle à sa foi jusqu'à son dernier souffle. 38 années de réclusion pour avoir lu la Bible. 38 années pour avoir refusé d'abjurer sa foi en Jésus, seul sauveur. Une femme que l'on a voulu détruire, mais qui, dans la tour de Constance, a gravé ce simple et puissant mot, résister. Et puis, un témoignage actuel, c'est en Iran. Injustement emprisonné en raison de sa foi, il remercie Dieu. Ahmed est un chrétien d'arrière-plan musulman, a commencé à purger sa peine de 10 mois de prison pour une prétendue propagande contre la République islamique d'Iran. Loin de perdre la foi, il préfère remercier Dieu. Le 27 juillet dernier, donc c'est tout récent, un mois et des poussières, Ahmed, 31 ans, s'est présenté à la prison centrale de Karachi, condamné pour propagande contre la République islamique d'Iran. Il devrait y rester une durée de 10 mois. Mais à travers les épreuves, la foi du jeune homme demeure inébranlable. Juste avant de se rendre en prison, Ahmed a enregistré une courte vidéo dans laquelle il explique le réel motif de sa condamnation. C'est son engagement en tant que disciple du Christ et non en tant qu'ennemi de son pays ou du régime. Ahmed a été arrêté par des agents du ministère de renseignement. C'était il y a 2 ans et demi, alors qu'il quittait son domicile de Fardis, le matin du 23 juillet 2019. Ce jour-là, les agents ont fait une descente à son domicile et ont confisqué tous les documents chrétiens en sa possession, Bible et ouvrages théologiques. Ses disques durs ont également été saisis. Mais reconnaissant, emmené en prison à Karachi, maintenu à l'isolement pendant 10 jours, Ahmed a été interrogé et soumis à d'odieuses propositions. S'il coopérait en devenant un informateur aux dépens d'autres chrétiens, il serait libre et n'aurait plus de soucis à se faire pour ses finances. Refusant ce chantage, il a été battu par ses geôliers. Ahmed a finalement été libéré sous caution, mais il n'en avait pas pour autant fini avec la justice de son pays. En compagnie d'un autre membre de sa famille, il a été contraint d'assister à des séances de rééducation avec un système religieux islamique. Au bout de 4 séances, Ahmed a refusé de poursuivre l'expérience. C'est alors qu'a commencé la procédure judiciaire. L'instruction a été retardée par la pandémie du Covid-19. Mais Ahmed a finalement été condamné en avril 2021 par le tribunal révolutionnaire de Karachi. Il a fait appel le 26 juin en vain. Une nouvelle fois condamné, il a été convoqué pour commencer sa peine de prison. Avant d'être incarcéré, Ahmed a pu témoigner. Je remercie Dieu de m'avoir jugé digne d'endurer cette persécution à cause de lui. Comme beaucoup de chrétiens iraniens, Ahmed est prêt à tout perdre, sauf la foi en son Seigneur et Sauveur. Jésus a pour lui une voix familière. Il le connaît. Bien, pour conclure, je lis ce simple verset. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a tant aimé et qui a donné sa vie pour moi. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces témoignages. Merci parce que tu nous montres que nous avons à dépendre de toi. Nous n'avons pas simplement à être confrontés à toutes sortes d'influences, positives ou négatives, d'influences d'autres croyants, d'influences de parents, de frères, de sœurs. Cela ne suffit pas. Seigneur, tu veux vraiment que nous ayons cette intimité avec toi, que nous puissions reconnaître ta voix, que ta voix nous soit familière. Et Seigneur, nous voulons te louer pour ces frères et sœurs qui ont accepté d'endurer la prison, parfois la mort, mais Seigneur, qui ont gardé la joie de t'appartenir. La joie de l'Éternel sera votre force. Eh bien, que cette joie de l'Éternel puisse nous inonder aujourd'hui, dans les jours qui viennent, dans nos circonstances. Tu vois, Seigneur, que nous vivons tous des circonstances particulières. C'est peut-être pas la prison, mais c'est la santé, c'est les difficultés, c'est peut-être des proches qui s'éloignent de toi. Et tu vois que cela nous blesse peut-être. Eh bien, Seigneur, que dans ta grâce, nous puissions regarder avec foi et écouter ta voix, et que ta voix nous devienne toujours plus familière. Dans le nom de Jésus. Amen.